Après avoir réfléchi la semaine passée sur notre manière d'attendre le retour de notre Seigneur au travers de la parabole des 10 vierges ou 10 jeunes filles, que je préfère, parabole ne se trouvant que dans l'évangile de Matthieu, je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur une autre parabole, propre à l'évangile de Luc, celle-là. Elle ne se trouve donc que dans Luc. Il s'agit de la parabole de Lazare et l'homme riche, que l'on trouve dans le chapitre 16 de cet évangile, que je vous propose donc de prendre maintenant. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par des anges auprès d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. » Maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Le riche dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Alors, disons-le d'emblée, cette histoire racontée par Jésus a fait couler beaucoup d'encre. Elle a occupé pendant des siècles, et ça continue d'ailleurs, bien des commentateurs chrétiens, en raison de quelques points d'intérêt tout à fait uniques contenus dans cette parabole. Alors, je voudrais néanmoins, je vais casser le truc tout de suite, comme ça on pourra partir bien à l'aise, je voudrais néanmoins immédiatement lever la plus grosse ambiguïté concernant cette parabole. En la lisant, on pourrait en effet se laisser aller à penser que l'objectif de Jésus est de nous dépeindre ce qu'il se passe lorsqu'on meurt. Le contenu est quand même assez étrange. Et ce sentiment était renforcé chez certains par le fait que pour la première et unique fois, l'un des personnages d'une parabole était nommé. On a le nom Lazare, le nom d'un des deux personnages de la parabole. Et que référence à l'au-delà aidant, on a commencé à se dire, certains en tout cas, qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une parabole, mais d'un récit d'une histoire réelle. Alors, je vous l'ai dit, je vais casser le truc tout de suite, cette opinion est difficilement défendable, tant les codes de cette histoire répondent à ceux d'une parabole. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous allez comprendre. Comme toujours, si l'on veut saisir le sens que Jésus veut donner à travers cette parabole, il faut tenir compte du contexte. Rappelez-vous, je l'ai rappelé à de nombreuses reprises, rappelez-vous l'une des premières règles d'interprétation des textes. Et la première règle, c'est que la Bible s'interprète par elle-même. Ce qui signifie qu'il faut toujours tenir compte du contexte direct et plus large d'un texte. Pour le dire autrement, il ne faut jamais sortir un texte hors de son contexte, au risque justement de se fourvoyer et de faire dire, et ce serait grave, au texte ce qu'il ne dit pas. Et cette parabole, ça ne va pas vous étonner, n'échappe pas à la règle. Posons-nous donc la question, que se passe-t-il avant que Jésus donne cet enseignement? Dans quelles circonstances parle-t-il? Il est en fait question de beaucoup de choses dans les versets qui précèdent. Alors disons, pêle-mêle, je vous fais un résumé, qu'on y aborde le thème de l'argent, des pharisiens qui essayent de se justifier, de la place de Jean le Baptiste dans l'économie du salut, ainsi que celui du divorce. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Le lien entre tout cela et notre parabole existe pourtant bel et bien si l'on est attentif. Il se situe en fait dans la référence faite par Jésus à la loi de Moïse et aux prophètes, qu'on va retrouver d'ailleurs dans notre parabole. Et je prends le texte juste avant notre parabole. Et je vais vous expliquer ce que signifie ce « en entendant tout cela ». Donc, en entendant ce que Jésus vient de dire, les pharisiens qui écoutent ce qu'il dit, qui aimaient l'argent, se moquaient de lui, se moquaient de Jésus. Jésus leur dit « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, donc jusqu'à Jean le Baptiste. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de lettre de la loi de Moïse donc. Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et tout homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. » Voilà ce que Jésus dit avant d'attaquer notre parabole. Alors ici, pour résumer, il se contente, si je puis dire, de rappeler à ses auditeurs la nécessité d'être juste, de tenter d'agir droitement en rapport aux exigences de Dieu exprimées dans la loi de Moïse et dans les livres prophétiques, ce que les pharisiens, malgré les apparences, ne faisaient pas. C'est pour ça que Jésus dit « Vous paraissez juste, mais vous ne l'êtes pas parce que Dieu voit vos cœurs, et il sait très bien ce qui s'y trouve. » Le fil conducteur qui lie ces paroles de notre Seigneur avec notre parabole est celui-ci. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. C'est ça le lien. Okay? Les pharisiens, dit Jésus, c'est ce qu'il leur dit, sont des philargouroi, des amoureux de l'argent, des amis de l'argent. Ils aiment l'argent. Et ce qu'ils venaient d'entendre de la bouche de Jésus, et qui les faisait bien rire, c'est une autre parabole, dite de l'intendant infidèle. En résumé, un homme qui devait gérer les biens de son employeur et qui en profitait pour le voler. Jésus reproche donc à travers cette première parabole, la parabole de l'intendant infidèle, parce que dans cette parabole, l'employeur ou le maître de cet intendant, c'est Dieu. Il reprochait aux pharisiens, au-delà de leurs apparences et de leur vie pieuse et religieuse et que tout le monde admirait en Israël, il leur reprochait de voler Dieu. Pas seulement en termes d'argent, et Dieu sait si le temple était vraiment un foutoir au niveau argent à l'époque, mais aussi en termes de densité de communion, de densité d'amour envers Dieu et les autres. Il faut donc voir ici la trame, le lien entre tout cela et notre parabole. La parabole de l'intendant fidèle et les paroles prononcées par Jésus constituent donc le pendant, le copier-coller, si vous préférez, de notre parabole qui met en scène un riche. Il y a un pauvre. Mais quand on fait attention à notre parabole de Lazare et du riche, on se rend compte que, en fait, la star de cette parabole, c'est bien l'homme riche. Tout le chapitre 16 est un rappel de notre Seigneur concernant les richesses et l'attitude qui en découle, parce que la façon dont on gère les richesses, dit Jésus, ça manifeste ce que vous avez dans votre cœur et quelles sont vos priorités de vie. Ceux-ci doivent être mis au service de Dieu, car c'est la seule manière d'éviter qu'ils usurpent la place de Dieu dans notre vie, qu'ils deviennent une idole. Jésus a souvent mis en garde contre le danger des idoles, qu'on se fabrique. Alors, il y a énormément de références à tout cela, mais j'en prends une. Hein. Vous rappelez-vous l'épisode du jeune homme riche, ce jeune homme qui vient vers Jésus en disant « Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et ce jeune homme qui refuse, tellement il est enchaîné à ses positions, de faire ce que Jésus lui conseille, lui dit de faire pour être libéré de son idole, qui est l'argent. Il lui dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et on sait tous que le jeune homme riche ne fera pas ça, il retournera chez lui. Le texte nous dit « tout triste ». Tout ceci souligne donc le danger potentiel que recèlent les possessions. J'ai bien dit « potentiel », car tout le monde n'aura pas un rapport biaisé à l'argent. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, qui ont un très bon rapport aux possessions matérielles. Et dès lors, tout le monde ne sera pas invité à Dieu, par Dieu pardon, à donner tout ce qu'il possède. Rassurez-vous, vous pouvez respirer. Mais la question reste posée. S'il nous le demandait, si Dieu nous le demandait, le ferions-nous? Si Dieu n'est pas le maître absolu de ce que nous possédons, si nos richesses ne sont pas utilisées de façon à le servir, si nous nous les approprions pour un usage personnel et égoïste, alors, dit Jésus, elles deviennent, dans le texte grec, mammon, une idole qui contrôle notre vie. Pas que celle-là d'idole. Hein. Toute idole va contrôler votre vie, même à votre corps défendant, même inconsciemment. Je pense que si on est lucide un instant, il nous est souvent très difficile de nous dire que rien de ce que nous avons ne nous appartient. Il me semble que tout appartient à Dieu. Nous sommes des administrateurs de ce qu'il nous confie, de ce qu'il nous permet de posséder. L'homme n'est qu'un gestionnaire qui gère les biens de Dieu sous le contrôle et la bienveillance de ces derniers. Je dis la bienveillance parce que, à ma connaissance, nous ne sommes pas tous SDF en train de faire la manche dans la rue. Okay? Donc, se réserver ses biens à soi seul, s'arroger sur eux un droit incontrôlé, ne peut se faire sans porter atteinte au droit de Dieu. Nous lui appartenons, on le chante très souvent, il est donc clair que tout ce que nous possédons aussi. Il faut donc lire notre parabole comme une réponse de Jésus à cette problématique de l'argent, des richesses. Elle montre les conséquences parfois tragiques d'être amoureux de l'argent, ce qui était le cas des pharisiens. Mais elle suggère aussi, et c'est important, le moyen de les éviter. Cette parabole, je l'ai dit, est fort intéressante et articulée en fait en deux grandes scènes, deux grands tableaux, et nous allons maintenant prendre ces tableaux et entrer de plein pied dans notre parabole, et je reprends la scène 1. Elle est beaucoup plus courte que l'autre. Je vous relis ce passage-là, c'est le premier tableau. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant sa porte, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères, ce n'est pas une image très ragoûtante. Deux hommes font leur entrée en scène. Ils sont séparés par tout ce qui est imaginable. Leur situation économique, physique et sociale respective est aux antipodes. Il n'y a pas plus opposé. Une seule chose les rapproche. Le spatio-temporel. L'un séjourne sur le pas de la porte de l'autre. Ce qui signifie qu'il y a une position de dépendance totale du pauvre vis-à-vis du riche et autorité, du même coup, et pouvoir potentiel complet du riche sur le pauvre. Je lui donne ou je ne lui donne pas. Ce qui les oppose également, et est mis en contraste par Jésus, c'est leur comportement, ce qu'ils vivent et la façon dont ils vivent. Nous sommes en effet en présence d'un homme riche. Et bien qu'il ne soit pas nommé, on nous dit qu'il est somptueusement vêtu de pourpre et de fin lin. Alors, ces deux éléments peuvent paraître anecdotiques, mais ne le sont pas du tout. Parce qu'ils servent à situer la richesse de cet homme. Il y a riche et riche. Hein. Ben lui, il est plutôt dans le panier du dessus. Tout simplement parce que le lin était une des matières les plus coûteuses à l'époque. Elle venait d'Égypte, il fallait déjà la faire venir d'Égypte. Quant au pourpre, sa couleur lui venait d'un coquillage déjà rare à l'époque. Ça ne s'est pas arrangé depuis. La description continue en mettant en avant son train de vie. Notre homme ne se refuse rien et fait bombance tous les jours. Et si les vêtements nous disent quelque chose de sa splendeur et éventuellement de sa renommée, quand on s'habille comme ça, c'est pour être vu des autres, les somptueuses et continuelles fêtes qui se passe dans sa maison, nous indique qu'il profite à plein de la vie. Il en profite au maximum. L'autre protagoniste de notre parabole, dont la description est deux fois plus longue, c'était intéressant, hein. C'est le riche qui hérite, si je puis dire, de la plus longue description faite par Jésus. Notre pauvre s'appelle Lazare. Et lui est un contraste vivant, en tout cas encore pour un moment, de ce qui vient nous être dit au sujet du riche. À la pourpre et au fin lin, aux beaux vêtements, s'opposent les ulcères dont le pauvre est couvert. Ces ulcères sont son seul vêtement. Vous voyez le contraste, hein ? Et au festin plantureux du riche, le pauvre n'a que sa faim et son dénuement complet à offrir. Alors, si on en doute, on peut en douter, hein, du dénuement, rappelons-nous que le pauvre homme convoite les miettes tombant de la table du riche. Alors là aussi, on peut ne pas y prendre garde, mais attendre que les miettes tombent de la table de quelqu'un, c'est une activité dévolue aux chiens. Alors quand on sait que le chien était considéré comme l'un des animaux les plus impurs d'Israël, on se rend compte que la situation du pauvre homme ne pourrait pas être pire. Il est en réalité moins qu'un chien, puisque ceux-ci, les chiens, lèchent ses ulcères. Et cette dernière précision achève le tableau. Notre première scène marque le désespoir abyssal de la situation de cet homme qui en est rendu à se laisser transmettre l'impureté de ses animaux. Parce qu'à l'époque, les Juifs considéraient que entrer en contact avec un élément impur, quel qu'il soit, rendrait la personne qui avait ce contact impur elle-même. Donc, retiré pour un temps de purification de la vie sociale en Israël et du culte dans le temple. Il est plus pauvre que les pauvres puisqu'il est impur, en plus. Première remarque importante, ce que Jésus dépeint, c'est la condition concrète de Lazare. Ce sont les faits, en dehors de toute considération religieuse ou morale. Il ne dit rien de son rapport à Dieu. Il ne dit pas si ce pauvre a la foi, s'il croit en Dieu, si c'est un homme qui a de la patience. Il ne dit rien de tout ça. Il n'y a rien par rapport à tout ça. Ce qui nous donne déjà une petite indication du sens qu'il ne faut pas donner à la parabole, mais j'y reviendrai. En dehors de son nom, et ça c'est un apax, comme on dit en théologie, c'est le seul cas dans la Bible pour les paraboles. En dehors de son nom qui vient de l'hébreu Éléazar, qui signifie « Dieu aide », Jésus ne donne aucune indication donc sur les croyances, la moralité ou la justice de Lazare ou son absence de justice. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas ne pas être en dessous de tout dans sa relation à Dieu. La pauvreté n'est pas une qualité intrinsèque en elle-même. Et ça, il faut le comprendre. Autrement, chaque fois qu'on va citer les pauvres dans l'Évangile, on va commencer à leur attribuer une qualité spirituelle qu'ils n'ont pas. Jésus ne parle donc que de son extrême misère. Donc c'est quelque chose de retenir l'attention, c'est le contraste entre les deux personnages. Face aux horreurs de celui qui souffre, la jouissance du riche apparaît scandaleuse et révoltante. D'autant plus qu'il ne fait rien pour soulager la misère du pauvre. Il aurait pu, sans entamer sa richesse, sans entamer son patrimoine, sans perdre son précieux temps qu'il passait apparemment à festoyer avec ses amis. Sa fortune n'aurait pas diminué s'il s'était contenté de prendre soin de ce pauvre. Entamons notre deuxième scène. C'est là qu'on va s'amuser. Enfin, s'amuser, si je puis dire. Je relis le texte. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en prenant une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puisse pas le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les avertisse, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute ? Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Ils se convertiront, en d'autres termes. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Ça, c'est le deuxième tableau. La deuxième scène. Et dans cette deuxième scène, Jésus nous emmène dans une autre dimension, puisque la mort emporte les deux personnages. Et on assiste en fait ici à un retournement de situation. Et ce retournement est amplifié volontairement par Jésus au travers des termes qu'il emploie. Il dit en effet que le pauvre est porté par des anges auprès d'Abraham ou dans le sein d'Abraham, dans le grec, ou dans le sein d'Abraham, je viens de lire, alors que le riche est simplement enterré. Là encore, le contraste est quand même saisissant. Mais malgré ce renversement, il faut bien noter que c'est le riche qui occupe le centre de la scène. Il est dans le Hadès, le séjour des morts, d'où il aperçoit Lazare dans le sein d'Abraham, lieu dont il est séparé par un abîme infranchissable. C'est ici qu'il faut faire une petite halte pour préciser les choses, car de nombreux termes sont utilisés par Jésus, termes qu'il faut expliquer dans le contexte de notre parabole, dans le contexte, le sens que donne à ces termes Jésus. Alors, la première chose qu'il faut dire et qu'il faut comprendre, c'est pour ça que j'ai lu le texte avant, qui précède notre parabole, c'est que cette vision de la vie après la mort n'est pas celle de Jésus, ni de la Bible. C'est la vision qu'ont les pharisiens. Car c'est bien à eux en priorité, puisque c'est eux qui rient à l'enseignement de Jésus, à qui Jésus s'adresse ici. Eux qui se sont moqués de son enseignement concernant les richesses. Il veut leur faire comprendre que le rapport néfaste à l'argent entraînerait des conséquences désastreuses pour eux. Et dans cette optique, notre Seigneur va utiliser leur vision à eux de la vie après la mort. Pour les pharisiens, voici donc leur vision, en gros, pour les pharisiens, lorsqu'un homme meurt, il rejoint immédiatement soit le sein d'Abraham ou le séjour des morts. Il y a deux endroits, si vous préférez. Alors pour eux, le sein d'Abraham, être près d'Abraham, leur père dans la chair, c'est le lieu de la félicité éternelle que rejoignent tous ceux qui sont justes devant Dieu, qui ont la foi en Dieu. Et il est évident que pour les pharisiens, c'est là qu'eux allaient atterrir à leur mort, forcément. Le séjour des morts était en revanche, d'après eux, réservé à ceux qui ne croyaient pas en Dieu, qui n'étaient pas justes devant lui, un lieu de tourment éternel, l'enfer, hein, en d'autres termes. Jésus utilise donc leur conception des choses pour les mettre en garde, justement. Alors ça, c'est la conception des pharisiens. Mais quelle est la bonne conception ? Alors, je ne vais pas vous mentir, les théologiens, ça n'étonnera personne, ne sont pas vraiment d'accord entre eux. Donc, ce que je vais dire maintenant, Bible en main, c'est ce que moi je crois. Exégèse, faites des textes. Hein. Et rassurez-vous, nous sommes communs, à mon avis, depuis que le Seigneur est venu sur cette terre, quelques milliers ou quelques millions à croire ça. Mais voilà. Le séjour des morts, Sheol en hébreu ou Hadès en grec, est le lieu où vont tous les défunts. Vous irez voir dans les notes sur le site toutes les références bibliques que j'ai tapées pour affirmer ça, hein, bien entendu. C'est un lieu de repos, c'est comme ça que le décrit l'Ancien Testament, dans le sens où la partie immatérielle du corps, notre âme, n'y est plus consciente. Quand nous dormons, nous ne sommes plus conscients. C'est le sens du terme, il est entré dans le repos. Okay? Au moment où Jésus enseigne cette parabole, aucune âme, après la mort, ne rejoint donc encore Dieu directement. Elles vont toutes dans le lieu de repos, le Sheol, le séjour des morts. Quand vous lisez l'Ancien Testament et qu'on fait référence au Sheol, qu'on explique quel est le contenu du Sheol, c'est là que vont tous les morts. David dit, je vais, une fois que je serai mort, je vais aller rejoindre mes ancêtres ou dans le séjour des morts. Il n'y a donc pas de connotation négative dans ce terme dans l'Ancien Testament. Donc pour que ça change, pour que des morts, des gens qui décèdent, rejoignent Dieu directement, il faudra attendre la mort et surtout la résurrection de Jésus. Car le Nouveau Testament nous dit que le Christ est descendu dans le Sheol, dans le séjour des morts, pour y chercher les âmes croyantes de ceux et celles qui étaient décédés avant sa venue, avant sa mort et sa résurrection. Et même, c'est Pierre qui nous dit ça, même y prêcher le salut à ceux de la génération d'avant l'alliance de grâce contractée avec Noé. Toute cette civilisation-là est décédée bien avant la naissance de Jésus, sa venue sur cette terre, pour notre salut. Et il fallait donc qu'ils entendent. Donc les hommes d'avant le déluge, si vous préférez. Les âmes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de David, d'Élie, de Moïse, de tous les prophètes, qui sont à présent, au moment où je parle, auprès de Dieu, bien conscientes et attendant la résurrection afin de recevoir un nouveau corps glorifié, semblable à celui du Seigneur ressuscité, étaient, avant la résurrection de Jésus, dans le séjour des morts. Vous me suivez? Depuis la victoire de notre Seigneur à la croix, les âmes des chrétiens, on va se faire un peu de bien, de ceux qui sont morts en Christ, rejoignent la maison du Père, vont auprès de Dieu, en attendant de recevoir un nouveau corps lors de l'instauration du royaume. C'est ce qu'on appelle cet état de l'âme près de son Seigneur, en attendant le don d'un nouveau corps glorifié, c'est ce qu'on appelle l'état intermédiaire entre notre vie ici et notre vie future dans le royaume. Le séjour des morts, quant à lui, reste le lieu où se rendent les âmes des défunts qui sont morts sans Christ et qui sont en repos pour l'instant parce qu'inconscientes et attendant le jugement de Dieu à la fin des temps. Ça va ? La vie éternelle, dont la garantie est la présence de l'Esprit Saint dans le cœur du croyant, met fin à l'état post-mortem d'inconscience de l'âme. Vous ne pourriez pas être inconscient après la mort, puisque vous êtes habité, votre âme est habitée par l'Esprit Saint, et que ce lien de vie est ininterrompable, puisque c'est une vie éternelle qui vous a été donnée. Le fait de ne pas avoir cette vie éternelle, de ne pas posséder l'esprit au moment du décès, implique en revanche une inconscience, un repos de l'âme, le Sheol, d'accord ? Ou le Hadès, dans le grec, dans le Nouveau Testament. Le Christ a donc dû, et c'est le credo des apôtres, descendre dans le séjour des morts pour appliquer sa justice acquise à la croix aux morts dans la foi, foi qui seule avait pu leur être imputée comme justice. Ils avaient la foi pour eux. Il leur restait au Christ d'impliquer sa justice. C'est comme s'il leur avait appliqué la croix. D'accord ? Pour la vie éternelle, il a fallu que Christ, par sa mort et sa résurrection, accomplisse la libération de ceux morts dans la foi avant sa venue et l'accomplissement de sa mission. En résumé, mais il fallait préciser ça, je suis ouvert aux questions, etc. Mais en résumé, les chrétiens porteurs de la vie éternelle, lorsqu'ils décèdent, sont séparés de leur corps, dont l'âme rejoint leur Seigneur au paradis. Et les incroyants, eux, n'étant pas porteurs de la vie éternelle, s'endorment dans la mort et l'inconscience et rejoignent ce séjour des morts en attendant le jugement. Mais ce séjour des morts, ce n'est pas un endroit de torture. C'est peut-être important à préciser. C'est parce qu'il sait que tout va changer suite à son œuvre à la croix, que Jésus peut dire à ce brigand, probablement cet assassin crucifié avec lui ce jour-là, et qui a placé sa foi en Jésus, c'est pour ça que Jésus peut lui affirmer, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est parce qu'il sait que tout va changer grâce à son sacrifice. Ton âme sera auprès de Dieu avec moi dans le paradis aujourd'hui même. Je pense qu'il fallait préciser tout ça afin de bien comprendre qu'en bon enseignement de la parole de Dieu, jamais Jésus n'aurait approuvé l'enseignement des pharisiens concernant la vie après la mort. puisque l'Ancien Testament, la parole de Dieu ne valide pas cette vision des choses. Ça n'empêche pas que beaucoup de théologiens chrétiens sont partis avec. Hein. Voilà, c'est ça. La perfection n'est pas de ce monde. Hein. Donc, à aucun moment, la parole de Dieu ne cautionne l'idée que le séjour des morts correspond à l'enfer, à un lieu de perdition, et que dès après la mort, sans aucun jugement, parce que c'est ce qui se passe, les hommes morts sans Dieu sont jetés dans un lieu de tourment éternel. Mais c'est bien ce que croyaient les pharisiens et d'ailleurs, à leur suite, la plupart des juifs à l'époque. Retrouvons à présent notre riche en fâcheuse posture, puisque le voilà en enfer. S'amorce alors un dialogue entre le riche et Abraham, pas avec Lazare, car celui-ci n'est plus à l'avant-scène. C'est un peu comme si le pauvre disparaissait. C'est à nouveau le riche qui est à l'avant-scène, puisque c'est d'abord à ceux-là que Jésus veut s'adresser. C'est la souffrance du riche à présent qui est soulignée. Avant, c'était la pauvreté du pauvre. Maintenant, c'est la souffrance du riche. Il en est à languir, vous imaginez, pour une simple goutte d'eau, lui qui, durant sa vie, s'est abreuvé des vins les plus délicats, on peut imaginer en tout cas, puisqu'il festoyait tous les jours. La réponse d'Abraham, tellement vénérée par les Juifs en général et les pharisiens en particulier, tellement fière d'en être les descendants dans la chair, a pour but de montrer que la situation du riche est pleinement méritée. Il est à relever qu'il ne discute d'ailleurs pas le sort qui lui est réservé. Et c'est une première conclusion que nous donne la parabole au travers des deux réalités exprimées et par l'abîme qui les sépare. D'un côté le pauvre, hein, qui est dans le paradis, dans le sein d'Abraham, et de l'autre l'enfer. Il est impossible, une fois arrivé à ce stade, de faire machine arrière. Il est impossible de changer cet état de choses. Tu avais toute ta vie, homme riche, pour changer la course de ton destin. Je pense que c'est l'interprétation qu'il faut donner à la mention du grand gouffre qui sépare le riche d'Abraham. Un gouffre existait entre le riche et le pauvre durant leur vie. Un gouffre énorme aussi. Hein. Un gouffre subsiste à présent aussi en eux. Entre eux, pardon. La situation, vous l'aurez remarqué, est totalement renversée. Encore une fois, c'est le riche qui souffre alors que le pauvre, lui, est consolé. On a envie de dire enfin consolé. Alors, encore une fois, il ne faut surtout pas voir dans tout cela une condamnation des richesses dans l'absolu et une exaltation de la pauvreté. Comme si le fait d'être riche était automatiquement porteur de jugement et le fait d'être pauvre revêtait une dimension méritoire. Surtout ne pas tomber dans ce piège-là. Pour être trivial, si personne n'avait d'argent, je parle pour les croyants, hein, si personne n'avait d'argent et si personne ne mettait dans la caisse, on ne serait pas là. C'est aussi bête que ça. L'argent, c'est horrible de dire ça, mais l'argent, même pour l'Église, est le nerf de la guerre. Et pour aider la mission, les gens qui sont malheureux, qui ont besoin d'être aidés financièrement, s'il n'y a pas de sous qui rentrent, ben, il ne se passe rien. Donc l'argent, par définition, n'est pas négatif en soi. C'est encore une fois l'utilisation qu'on en fait que Jésus stigmatise. Abraham constate un fait en appelant au souvenir du riche. Tu te rappelles ? Tu as bien joué de la vie. Hein ? Mais sans établir une relation de causalité entre sa richesse et le fait d'atterrir à cet endroit. Pas plus qu'il ne dit « le pauvre, il est près de moi parce qu'il était pauvre ». Il ne dit pas ça. Il ne pourrait pas, parce que théologiquement, ça ne tient pas. Donc, par l'absence de réaction de la part du riche quant à son inconfortable situation, le texte sous-tend qu'il est juste que les choses se passent ainsi. En bon juif, ce riche n'a pas écouté la loi de Moïse qui prescrivait comme à de nombreuses reprises d'aider les plus nécessiteux, de ne pas fermer son cœur aux nécessiteux, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Combien de fois dans le livre prophétique, après toutes les diatribes que les prophètes envoient à Israël en disant « Vous rendez compte, il se passe ça, vous faites ceci, cela, c'est une catastrophe, vous abandonnez l'Éternel », une des manifestations les plus frappantes de cet abandon, c'est que la veuve et l'orphelin crèvent de faim. C'est la cerise sur le gâteau. Vous voulez encore? Je voudrais donc une preuve. Regardez dans quel état sont les veuves et les orphelins dont vous devriez prendre soin. Ce riche n'a donc pas tenu compte ni de la loi de Moïse, ni des textes prophétiques. C'est donc juste. Donc ça veut dire aussi qu'il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Le récit va encore rebondir une dernière fois, si je peux dire. Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les avertisse afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Et Abraham lui répond, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Oui, on voit à la parole de Dieu. Hein. « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Autrement dit, ces textes ne vous ont pas été donnés pour faire décoratif, mais pour que vous les viviez, que vous leur obéissiez. Puisque la loi de Moïse est parole de Dieu. Je rappelle aussi, petite parenthèse, que les chrétiens que nous sommes ne pouvons pas jeter la loi de Moïse par-dessus, ou par la fenêtre, ou par-dessus la porte, enfin, comme vous voulez. Nous ne sommes plus tenus aux règles cérémonielles. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas un autel pour sacrifier un animal ici. C'est Jésus le sacrifice. Mais il n'empêche que la loi morale contenue dans la loi de Moïse, nous y sommes tenus. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, ne fais pas de fautes. Enfin, ça, c'est les 10 commandements, ça, c'est le SMIG. Non, mais vraiment, parce qu'après, on peut rajouter tout le reste. Alors, puisque la règle de la Nouvelle Alliance, c'est l'amour, c'est pour ça que Paul dit, aime comme Dieu te le demande, et tu accompliras la loi de Moïse. Parce que si tu aimes, tu tues personne. Si tu aimes, tu ne mens pas. Si tu aimes, tu prends soin. Enfin, tu accomplis la loi. Et nous sommes capables de faire ça. Pourquoi ? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas toujours très lumineux, mais nous avons quand même le Saint-Esprit. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Donc c'est le verbe se convertir dans le grec. Ils se convertiront. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite, autrement dit, ils ne se laisseront persuader par rien. Le riche demande qu'on avertisse ses frères pour leur éviter d'atterrir au même endroit que lui. Alors le questionnement qui est ici généré éclaire le sens de notre parabole. Cette question revient en fait à demander comment les riches pourront éviter ce que lui n'a pu éviter. Ce n'est pas en ressortant en voyant un mort prêcher aux vivants. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça qu'on va éviter cet endroit. Dans la parabole, vous connaissez, je crois, ma position générale sur le sujet. La condamnation des riches, le jugement qui les attend, n'est pas inexorable. Ce n'est pas une fatalité. Ils peuvent être évités, ces conséquences désastreuses, par la conversion qui aura des conséquences radicales sur la manière dont quoi dont ils vont utiliser leur richesse, parce que ça va être transformé comme tout le reste. Un riche qui se convertit, il se rend compte que ses richesses ne lui appartiennent pas et que Dieu lui a donné ses richesses, lui a permis d'être riche pour soulager une partie de la misère du monde et d'utiliser cet argent pour l'œuvre de Dieu, pour l'avènement de son royaume. Voilà. Donc, ce n'est pas inexorable. Ne remplissez pas un butin de loto, ça ne sert à rien. Je précise quand même. Alors, à présent, que faire de cette parabole? Puisque, je ne lis pas dans vos têtes, pas encore. Puisque nous ne sommes pas riches. Pas riches. Pas si sûr. Mes amis, par rapport à d'autres contrées, d'autres cultures, d'autres civilisations, on est pété de thunes. Et par rapport à ce pauvre de la parabole, posons-nous la question, déjà, s'il y avait un pauvre qui était devant notre porte, couché par terre, qu'est-ce qu'on ferait? Dieu nous donne comme prochain les pauvres de façon particulière. Jésus a d'ailleurs dit, un peu avant son arrestation, « Vous aurez toujours les pauvres avec vous. » Donc quand je serai ressuscité, plein de choses seront changées. Mais toutes ces choses seront invisibles à l'œil de la plupart des gens. Le monde va continuer à tourner comme si je n'étais jamais venu. C'est juste pour mes disciples que tout sera changé, parce qu'eux auront le royaume dans le cœur, parce que le Saint-Esprit y sera. Mon esprit sera en eux. Et ils seront dans ce monde déjà les prémices du royaume de Dieu. Mais pour le monde, ça ne changera rien. Donc les pauvres seront encore là, jusqu'à ce que je revienne. Ils sont donc, c'est une façon de le dire, hein, les pauvres sont donc plus nos prochains peut-être que d'autres. Ce sont des candidats privilégiés pour nos soins et notre sollicitude. Je vais pas rappeler cette petite histoire vraie d'ailleurs d'un pasteur américain qui en plein hiver s'était déguisé en mendiant pour faire les poubelles près de la plus grosse église de sa ville, une église de milliers de personnes, dont le gouverneur de l'État qui fréquentait cette église. C'était un dimanche matin, je pense que c'était le jour de Noël. Culte de Noël. Et tout le monde défile sans s'occuper de ce malheureux. Il ne leur donne pas une pièce, rien. Et puis quand tout le monde est installé dans l'église, qui rentre dans l'allée centrale, le malheureux, il traverse toute l'allée de l'église, véridique cette histoire, il monte en chair, il enlève sa fausse barbe et sa défroque de SDF et il dit, il y en a trois qui m'ont adressé la parole. Seulement trois. Les pauvres sont des candidats privilégiés pour nos soins et notre sollicitude. Alors c'est vrai que la parabole ne fait aux riches aucun reproche explicite quant à son manque de compassion envers le pauvre. Jésus n'en parle pas. Mais il n'empêche que la situation des deux personnages est décrite de telle manière que les auditeurs de l'époque et nous aujourd'hui réagissons de la même manière face à l'attitude du riche. C'est scandaleux ! En oubliant au passage que dans la parabole, comme nous ne sommes pas pauvres et pas couverts d'ulcères, devinez qui nous sommes. Nous sommes le riche, mes amis. Surtout vous, hein, tout le monde sait que je suis un pasteur nécessiteux, moi. Mais je ne suis pas devant la porte. Je vais peut-être essayer, tiens, dimanche prochain, de me mettre... Il n'y a pas la place, cette porte est trop petite. Dans le même ordre d'idées, la parabole avertit qu'il y a un seuil au-delà duquel il est trop tard, parce qu'on ne pourra pas, encore une fois, revenir en arrière. Que l'histoire de cet homme serve de leçon à ceux qui ont des richesses, donc un peu tout le monde ici, et qu'ils comprennent que la bonne nouvelle elle-même peut devenir une mauvaise nouvelle, comme elle est devenue pour cet homme riche. Le texte ne dit pas non plus, mais il est probable que cet homme riche, puisqu'il était juif et descendant d'Abraham, et couvert de richesses, manifestement bénédiction de Dieu sur sa vie, ben il est probable que cet homme s'attendait à rejoindre le saint d'Abraham. Comme un nombre incalculable de chrétiens pensent qu'ils vont y aller, que c'est une évidence. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment de dimension éthique ou morale ou religieuse ici. Pas explicite, mais implicite, je pense qu'il y a un terreau implicite dans la parabole. Si le riche ne se rend compte de la dureté de son cœur et de son insensibilité coupable que dans les affres du châtiment, n'est-ce pas parce qu'il était étranger, justement, à toute ouverture de cœur, à toute conversion possible, à toute communion authentique avec Dieu, à une obéissance réelle à la loi de Dieu, qui veut que nous prenions soin des plus faibles. Son attitude manifeste, en fait, l'état de son cœur, manifeste l'état de notre cœur. Il faut entendre ces signaux-là, de nos vies à nous. Quand on passe à côté de quelqu'un qui n'est pas couché dans le trottoir ou qui fait la manche. Ça a des conséquences. Il faut un moment se rendre compte, peut-être. Rappelons encore que ce ne sont pas seulement les riches avares qui sont au service de l'argent. On peut être pauvre et avoir un mauvais rapport à l'argent. Ceux qui sont tellement préoccupés par eux-mêmes, par leur vie, tout simplement, par leur plaisir aussi peut-être, mais qui n'ont plus le temps ni la capacité pour les autres, qui ont perdu toute sensibilité devant les souffrances de leurs prochains, ceux-là aussi sont au service d'une idole, forcément, eux-mêmes, c'est un grand classique. En dernière analyse, leur attachement est coupable parce que leur train de vie prend la place de Dieu, leur conception de la vie, le plaisir... prend la place de Dieu. Ils donnent leur allégeance au bien de ce monde, alors que seul Dieu est en droit d'être le sujet ultime de notre intérêt et de nos préoccupations. Je termine, si je puis dire. Il ne faut pas faire l'aumône à Dieu, mes amis. Il ne faut pas faire l'aumône à Dieu. Ni l'aumône de notre être, de notre amour, ni l'aumône de notre temps, ni l'aumône de nos biens. Car, au bout du compte, la question n'est pas combien dois-je donner à Dieu dans tous ces domaines, mais bien combien me laisse-t-il à disposition. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.